Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Bruno Picard. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Ok, on commence. Waouh, on commence. Merci les gars, on va commencer. Okay, on commence. Tout le monde dit « Je suis avec toi Seigneur ». Je suis heureux de vivre. Acte 9, 26 ce soir, je vais parler de la grâce de Dieu. C'est un thème que tout le monde connaît bien, que tout le monde, dont tout le monde parle, mais je vais ce soir aborder le sujet rapidement, mais d'une façon extrêmement puissante, j'espère pour vous. La grâce de Dieu, tout le monde dit la grâce, c'est une atmosphère, une culture hautement prophétique. La grâce de Dieu est prophétique. Acte 9, 26, 28 nous dit, arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas, tout le monde dit, alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Et Saul allait, venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. 1 Pierre 4, 10 nous dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Chacun de vous. Qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chacun a reçu un don et Dieu demande que notre don, nous le mettions au service des autres. Le mot gérant signifie une personne assurant la direction ou l'administration de quelque chose pour quelqu'un d'autre. Nous sommes gérants des dons et des biens que Dieu nous a confiés. Lorsque j'ai une relation intime avec Dieu, lorsque j'ai une relation proche de Jésus, je comprends que tous les dons qu'il me donne, c'est pour les autres. On me suit ? Donc la grâce que je reçois, ce n'est pas la grâce que pour moi. La grâce que je reçois, elle est aussi et surtout pour les autres. Le danger de l'Église, c'est que l'Église devienne un récipient au lieu de devenir un canal. Nous ne sommes pas appelés à être un récipient, nous sommes appelés à être un canal qui laisse couler la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu vient dans ma vie, je la restitue, je la donne, je l'administre, je la gère pour Dieu. Dieu me dit, je te donne de la grâce, distribue-la. Je te fais chanter comme Christophe, distribue ta voix. Bénis les oreilles des gens. Je te donne un don pour faire de l'argent. Fais de l'argent, fais beaucoup d'argent. Distribue ton argent. Le salut commence, écoutez bien ça. Le salut commence dès l'instant où je me mets à croire en Jésus, oui ou non ? Dès que je me mets à croire en Jésus, le salut commence. Mais la transformation commence quand je sais que Jésus croit en moi. Je vais redire ça. Le salut commence quand je commence à croire en Jésus. Mais la transformation dans mon cœur commence quand je me rends compte que Jésus croit en moi. Est-ce que vous savez que Jésus croit en vous ? C'est pour ça qu'il vous a fait naître. C'est pour ça qu'il vous donne de l'onction. C'est pour ça qu'il vous sauve votre âme. C'est pour ça qu'il vous amène à Hosanna ici, une église où il y a des hommes et des femmes qui veulent grandir. Parce qu'il croit en vous, parce qu'il croit que vous et moi, nous pouvons amener le réveil à La Réunion et en France. J'ai un couple qui m'a écrit il y a quelques jours de cela. Ça fait 6 mois que je les regarde, ou 3-4 mois, et ils suivent tous les messages Hosanna. Ils habitent en France. Ils suivent tous les messages, ils copient nos citations, ils copient ce qu'on dit sur Facebook et Twitter. Ils nous suivent. Et dès un moment, ils m'ont écrit en me disant, voilà, tu sais, je me présente. Et Dieu m'a dit, bénis ce couple, fais-les venir à La Réunion, bénis ce couple. Et le dimanche, on a un truc sur notre cœur, on va faire pour eux. Et je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà, si vous trouvez le billet d'avion, nous vous offrons le logement. Et ils en sont mis à pleurer. Ils m'ont écrit, non, qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne nous connais même pas. Pourquoi tu fais ça pour nous? Et je me suis surpris à écrire, la grâce de Dieu est inconditionnelle. Il est facile de donner des dons et des cadeaux aux gens que l'on aime. Il est facile de faire des gros cadeaux à notre femme, notre mari, notre église, notre pasteur, l'ami que nous aimons le plus cher au monde. Il n'est pas facile de faire un gros cadeau à quelqu'un que nous n'avons jamais vu. Et c'est pourtant ce que Dieu attend de nous, Hosanna, que nous fassions des dons et des cadeaux de la grâce de Dieu à des hommes et des femmes que nous ne connaissons pas. Il est important de développer une culture de la grâce. Dieu me bénit, je donne la bénédiction. Dieu me donne des dons, je redistribue aux dons. Dieu me donne sa grâce qu'il me donne, c'est pour les autres. Alors pourquoi est-ce que la grâce est-elle tellement importante dans l'église Hosanna? Pourquoi est-ce que Hosanna doit être une église de grâce et non pas de jugement, non pas de critique, non pas de médisance? Une église de grâce, une église qui aime, une église qui pardonne, une église qui relève. Ce matin j'ai écrit sur mon mur Facebook, j'ai écrit que Dieu est le Dieu qui trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu est un Dieu qui dit à son église, même si tu es par terre, même si tu es à terre, même si tu es en bas, rien ne t'oblige à rester en bas, car moi, dit Dieu, j'ai un futur pour toi. Quand l'église marche dans la puissance de la grâce, elle dit aux gens qui l'entourent, Dieu a un futur pour toi. Il est important de développer une culture dans laquelle nous croyons dans les gens. Est-ce que tu crois dans tes enfants? Est-ce que tu crois dans l'église? Est-ce que tu crois dans ton pasteur? Je ne parle pas de croyance en Dieu. Dieu, c'est Dieu. Je parle de faire confiance, de croire en ce que Dieu a mis en nous. Dieu a mis en nous son esprit. Je parle de faire confiance à Dieu. Si Dieu me fait confiance, alors, et si Dieu te fait confiance, je me dois de te faire confiance. Je vais redire ça. Si Dieu te fait confiance, je me dois de te faire confiance. La culture de la grâce, la culture de la grâce est une culture de champion. Le nombre de fois où je prie pour Alain, et à chaque fois que je prie pour Alain, Dieu me donne une vision ouverte pour lui. Ça m'énerve. Alain, je sais pourquoi tu me montres cette vision-là. Et à chaque fois, il me montre des choses du style, il prend Alain sur ses deux genoux et il fait danser Alain comme un enfant avec son père. Et à chaque fois qu'il parle à Alain, il dit à Alain, je suis fier de toi mon fils, tu réussiras, tu accompliras mon plan, tu feras ma ta destinée, je suis fier de toi mon fils. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, parce que je vois Alain, non pas comme il est aujourd'hui, je le vois tel qu'il est demain. Et Dieu ne me traite pas tel que je suis aujourd'hui, Dieu me traite tel que je serai demain. Et c'est la puissance de la grâce. Quand tu commences à voir les autres avec les yeux de la grâce, tu ne traites pas les gens tels qu'ils sont aujourd'hui, tu traites les gens tels qu'ils seront demain. Et le diable a dit un jour dans ma vie, j'ai résumé cela en quelques mots, parce que ça a pris plusieurs semaines, mais on parlait de soumission, on parlait de mariage. Et elle m'a dit un jour, chérie, je ne me soumets pas à toi parce que tu le mérites ou parce que tu as changé. Je me soumets à toi pour que tu changes. Je vais la tête des femmes ce soir dans ce lieu. Je ne me soumets pas à toi parce que tu as changé, parce que tu le mérites. Je me soumets à toi pour que tu changes. Elle me dit parce que la soumission, l'attitude de la femme dans la maison ouvre le cœur de l'homme au travail du Saint-Esprit ou ferme le cœur de l'homme au travail du Saint-Esprit. Femme, vous êtes des armes de destruction massive contre le diable. Et quand vous arrivez à un stade, femme, à avoir une attitude qui plaît à Dieu, votre mari est désarmé. Et Pierre dit, c'est en ayant une attitude pieuse que tu gagneras le cœur de ton mari. Une femme a la grâce de Dieu pour changer le cœur des hommes. Bon, c'est pas le message ce soir, mais regarde ton mari, si t'en as un à côté de toi, dis chérie, miyamao. Dieu veut que Hosanna ce soir puisse véritablement comprendre ce que signifie la culture de la grâce. Tout le monde dit la culture de la grâce. La grâce, c'est quand tu commences à voir les gens tels que Dieu les voit. La grâce n'est pas juste dire oui, amen à tout. La grâce, ce n'est pas être faible. La grâce, ce n'est pas dire oui, c'est bon, c'est pas grave si tu pèches. Non, la grâce, c'est malgré ton péché, je choisis de te voir tel que Dieu te voit. Lorsque la grâce est présente, écoutez bien ça, lorsque la grâce est présente, elle crée une culture de champion. Lorsque la grâce est absente, elle crée une culture de perdant. une culture de champignons. Les champions émergent lorsque la grâce est là. Tout le monde dit les champions émergent lorsque la grâce est là. Vous savez, ce soir-là, on est dans ce lieu. Combien de vous pouvez me dire que vous êtes là parce que c'est grâce à la grâce, c'est par la grâce de Dieu, par sa grâce, parce que vous ne méritez rien. Vous comprenez ça? Vous êtes toujours vivant aujourd'hui parce que Dieu a sa grâce. Si nous pouvons commencer à étendre la grâce de Dieu envers tous ceux et celles que nous fréquentons, nous transformons la vie des gens. Une culture hautement prophétique, pourquoi? Pourquoi est-ce que la grâce est prophétique? Pourquoi est-ce que la grâce est une culture prophétique? Parce que dans la grâce, tu vois les autres tels qu'ils vont devenir en Christ. Et donc quand tu marches dans la grâce, tu ne vois pas Laurent avec ses limitations, avec ses doutes et ses craintes et ses peurs. Tu vois Laurent avec le cœur de Dieu en lui, tu vois Laurent avec l'empreinte de Dieu, tu vois Laurent avec son futur, tu vois Laurent avec son talent, tu vois Laurent avec son don, tu vois Laurent, et tu sais quoi Laurent, je vais te parler non pas comme tu es aujourd'hui, je vais te parler comme tu seras demain. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis des mois maintenant, j'ai commencé à pratiquer ce message depuis maintenant plus de 2 ans, et je sais que ceux qui me connaissent m'appellent Barnabas. Et ce soir je vais vous parler de Barnabas. Tout le monde dit je suis un Barnabas. Vous savez, lorsque vous êtes dans la grâce de Dieu, vous ne voyez plus les ossements desséchés, vous voyez l'armée qui se lève. Lorsque vous voyez, vous avez la grâce de Dieu, vous ne voyez plus la femme adultère, vous voyez la femme qui a été guérie par Jésus-Christ. Lorsque tu vois, quand tu marches par la grâce de Dieu, tu ne vois plus Saul de Tarse, tu vois Paul l'apôtre. Quand tu marches dans la grâce de Dieu, tu ne vois plus ton mariage brisé, tu vois un mariage reconstruit. Quand tu marches dans la grâce de Dieu, tu regardes ton frère ou ta sœur qui te prend la tête comme un frère ou une sœur que tu as restauré, que tu as aidé. La grâce de Dieu est prophétique. Tout le monde dit la grâce de Dieu est prophétique. La grâce de Dieu active les destinées. La grâce de Dieu active les destinées. Et ce soir, je vais vous le prouver. On va lire ensemble un passage très fort, l'exemple de Barnabas. Tout le monde dit Barnabas. Vous savez, Barnabas est quelqu'un qui avait ce regard de la grâce de Dieu. Dans Actes 9, 26, on va relire ensemble ce passage. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya, écoutez bien ça, il essaya de se joindre aux disciples. C'est comme si le gars arrivait à l'église pour la première fois à l'église Hosanna, et on regarde, on dit mince, c'est Saul de Tarse, c'est un meurtrier. À l'époque, c'est comme si je disais, c'est Ben Laden ou je ne sais plus quel meurtrier là, Kadhafi. Imagine que Kadhafi arrive ici, il vous dit, je suis chrétien, maintenant je suis sauvé, la vie par le sang de l'agneau. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ça veut dire en arabe, bienvenue, assieds-toi, prends une place. Tu veux un verre d'eau? Qu'est-ce qu'on ferait, nous? C'est un meurtrier notoire, connu, reconnu, recherché par le FBI. FBI. La CIA. Et il débarque. Et il fait, je suis chrétien. Oui, non, je suis plus un meurtrier, je sais. Hier soir, j'ai tué 10 000 chrétiens. Mais là, ça va mieux, je vais bien. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Saul, va-t'en. Va chez l'autre église en face de la rue, là-bas. Écoutez bien ça. Se joindre à qui? À qui il veut se joindre? Dans ces disciples-là, il y avait les disciples qui ont marché avec Jésus. Les Pierre et les Jean, les disciples de Jérusalem. Le top class du leadership de l'époque. Ces gars-là n'ont pas de discernement. Ces gars-là, ils ont flippé. La Bible dit ici, mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. La peur enlève la foi chez les autres. Et la peur t'empêche de croire en ce que Dieu fait chez les autres. Ils avaient peur car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Ils ne croyaient pas ce que Dieu avait fait en lui. Alors Barnabas, tout le monde dit alors Barnabas. Je rends grâce à Dieu pour ces 2 petits mots. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et il raconta sur le chemin, comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux, les disciples, dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance. Tout d'un coup, à cause de Barnabas, Paul, Saul en tout cas, est accepté par les disciples et commence à prêcher avec eux comme un poisson dans l'eau. Juste avant, il est rejeté, il est blessé, meurtri. Mais Barnabas arrive et dit, mais les gars, vous comprenez pas, j'ai parlé avec lui, je peux authentifier que Dieu a touché son cœur. Je peux authentifier que hier, il était drogué. Hier, il se droguait. Hier, il frappait sa femme. Hier, il trompait sa femme. Hier, il trompait son mari. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Je l'ai vu, elle s'est repentie avec moi. Je suis avec elle, je l'aide. Je suis son Barnabas ou sa Barnabella. Les femmes seront les Barnabella et les hommes seront les Barnabas. Nous, ce qu'on fait, Église, on barnabasse pas les gens, on les tabasse. On ne croit pas que Dieu peut changer les cœurs. On ne croit plus en cela. Et c'est là le problème. Dieu peut changer les cœurs. Dieu peut changer les vies. En une seconde, un moment. Église, la grâce de Dieu, c'est de voir que Dieu est toujours à l'œuvre ce soir dans ton cœur, dans ta vie. Il peut changer ton couple, il peut changer tes enfants, il peut changer ta famille en une seconde. Le mot « moment » vient du même mot grec « atome ». Est-ce que vous voyez les atomes ce soir, les atomes? Qui peut voir les atomes? Essaye de voir, c'est petit un atome. Tu peux rater un moment de Dieu comme tu peux rater un atome. La même racine grecque, atome et moment, c'est la même chose. Dieu change les cœurs. Alors pourquoi faut-il des Barnabas dans l'église? Parce que les Barnabas portent en eux la culture de la grâce. Ils voient les autres tels que Dieu les voit. Ils ne voient pas les autres comme les gens les voient. Ils voient les autres avec le regard de Dieu. Et ils disent, Saul a changé. Je sens le face-à-face avec Dieu. Je vais l'aider, je vais le conduire. Imagine que tu dois accepter chez toi pour quelques jours Kadhafi. Imagine que tu invites chez toi Sitaran. Non mais c'est ça le problème. Le gars est meurtrier. Paul, avant sa conversion, est possédé par quelques légions. Il tue les chrétiens. Il a la haine, il est haineux, il est affreux, il sent pas bon, il sent le meurtre, c'est un meurtrier. Et tout d'un coup, le lundi au soleil, il arrive et il débarque et dit « chrétien, tu fais quoi toi ?»« Salut Saul, allez bien, viens chez moi. » Tu veux un petit barbecue? Poulet grillé comme Luc aime manger au barbecue? Ah, c'est toi Kadhafi, ça va? Alors raconte-moi, comment est ta conversion? C'est exactement ce que Barnabas fait ici. Acte 4, 36, je vais vous montrer un peu quel genre d'homme était Barnabas. Parce que j'aimerais ce soir faire un appel avant de partir. J'aimerais demander à ceux et celles qui veulent devenir des Barnabas et des Barnabella. Parce que lorsque Barnabas dans une église, l'église explose. Le diable prend une correction avec les Barnabas. Acte 4, 36 nous dit, par exemple, Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, fils de la consolation, fils d'encouragement. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Frère, écoutez bien ça. Barnabas s'appelait en fait Joseph. Et les apôtres ont changé de nom parce qu'il était un homme qui encourageait. Vous savez, on a tous des surnoms, souvent malheureusement. Moi, j'encourage les gens à ne pas donner de surnoms négatifs. Cure-dent, petit gros, petite boule. Dites pas ça aux gens. Gingade, estrivagué, dites pas ça aux gens. Donnez des noms qui encouragent. Barnabas. Fils de l'encouragement. Et le mot Barnabas est puissant. Il vient de Bar, qui signifie fils, et Nabas, qui est la racine grecque du mot parakletos, qui signifie l'encouragement, celui qui vient encourager. Donc Barnabas est le fils de l'encouragement. Les apôtres, les disciples, écoutez bien ça, voyez en Joseph, Barnabas, il disait, toi tu es Barnabas, tu es le fils du Saint-Esprit. C'est extrêmement puissant. Il disait, tu es Bar-Nabas. Nabas signifie le parakletos, le Saint-Esprit. Il dit, tu es le fils du Saint-Esprit. Il est tellement en train d'encourager qu'on va changer son nom. Il n'est plus Joseph, il est Barnabas, le fils qui encourage, le fils qui édifie. Et Barnabas, il dit ici, Joseph était un lévite. C'est important parce que le lévite, à l'époque, signifiait qu'il était de la tribu des adorateurs. Je crois sincèrement qu'un vrai Barnabas est un adorateur. Un homme qui est proche de Jésus. Un adorateur, un homme qui aime Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer les autres. Celui qui n'aime pas les hommes n'aime pas Dieu. Celui qui n'aime pas les gens n'aime pas Dieu. Si Steve a un problème avec Elodie au mois de février, et que Steve a un problème avec Philippe au mois de mars, et que Steve a un problème avec Olivier au mois d'avril, et que Steve a un problème avec Cédric au mois d'octobre, et que Steve a un problème avec Jérémy au mois de novembre, ça signifie que Steve a eu un problème avec Dieu toute l'année. Ta relation avec Dieu influence ta relation avec les hommes et les femmes qui t'entourent. Si tu aimes Dieu, tu aimes les hommes. Et Barnabas était un de ces gars-là, intime avec Jésus. Et il le montrait aux hommes, il encourageait les autres. Il était le fils de ceux qui encouragent. Intime, un adorateur. Après, la Bible dit qu'il était de Chypre. Parce qu'il avait un terrain à Chypre qu'il a vendu. Il faut savoir que Chypre possédait à l'époque la plus grande terre, la plus grande mine de cuivre. D'ailleurs, le mot Chypre en arabe signifie cuivre. Et à l'époque, même aujourd'hui, les terres à Chypre, l'île de Chypre, sont très très chères. C'est une île. Les terres sont rares et à l'époque, les mines de cuivre étaient, les seules connues étaient à Chypre. Imagine Barnabas qui a un terrain à Chypre. C'est comme s'il y avait un terrain à Beverly Hills ou sur la côte de Cannes. Ou sur, je ne sais pas moi, bref. Où ça ? Monaco, merci. Tu as une case à Monaco, tu fais « je vais vendre cela pour la cause de Christ ». Et tout d'un coup, Barnabas, qui aime encourager les gens, qui est un adorateur, se dit « moi, je vends mon terrain qui est à Chypre, je donne l'argent et je dépose au pied des apôtres ». Ça parle de quelqu'un qui est extrêmement généreux. Et je crois que celui qui veut être un Barnabas, non seulement doit être un adorateur, mais il est aussi un homme généreux. Tu ne peux pas, et vous verrez dans un instant pourquoi, tu ne peux pas être un Barnabas si tu n'es pas, généreux. Dans Actes 9, 26, on l'a vu tout à l'heure, Saul a essayé de se joindre aux disciples. Ils avaient peur, ils le craignaient, donc ils l'ont rejeté. Mais Barnabas, quand je pense à l'image de Saul qui arrive à l'église, je pense à quelqu'un qui, par exemple, fume. Le nombre de fois où j'entends l'église juger les gens qui fument. Waïaïaï, on perd notre temps à juger les gens qui fument. Aime les gens, jusqu'à ce qu'ils demandent pourquoi. Nous, ce que nous voulons faire, nous voulons que les gens changent avant d'arriver à l'église. Mais ça ne marche pas comme ça. Ils changent tout au long de leur vie avec l'église. Dans la culture de l'amour, tout le monde change. Alain, puis-je partager un peu ton témoignage ? Tu permets ? Gilles, tu permets ? Gilles, tu permets ? Alain, quand on s'est rencontrés, je n'oublierai jamais ce moment-là. Moment magnifique pour moi. Je suis venu chez lui la veille de mon épreuve de maths pour le baccalauréat. Avec Jim, je crois qu'il y avait quelques frères, mon père. On allait lui prêcher l'évangile. Ce soir-là, Alain, son cœur s'est ouvert. Il a commencé à dire « Ok, je vais aller très vite, hein, c'est une longue histoire, mais... » Quelques points principaux. Et dans son cœur à Jésus. Mais Alain avait deux femmes à l'époque. Il se prenait pour Abraham. Il avait deux femmes. Et il allait à peu près, hein, lundi, mercredi, vendredi chez l'une, mardi, jeudi, samedi chez l'autre, et un week-end sur deux chez l'une et l'autre. Il avait deux femmes, le gars. À toi, là. Écoutez bien ça. Entre le moment où Alain a donné son cœur à Jésus et le moment où Alain a fait le choix de prendre qu'une seule femme, de se marier, de mettre sa vie en règle, combien de temps il a fallu ? 2 ans à peu près, 2 ans et demi. 2 ans et demi où je n'ai pas abandonné Alain. J'ai dit « Alain, on va te donner le temps de faire ton choix. La grâce ne force pas les gens, la grâce influence les gens. » J'avais vu qu'il serait un homme de Dieu, un homme qui serait proche de mon cœur, un homme qui serait proche de l'église. Mais il y avait deux femmes et il ne savait pas quoi choisir. Il ne voulait pas blesser les deux. Les deux étaient blessés déjà, mais il ne voulait pas blesser encore plus. Et un jour, il m'appelle. Il dit, il faut que je te parle. Et on m'a au restaurant, à la plaine des Caves, un petit restaurant super sympa avec une côtelette. C'était bon ça, ceux qui jeûnent là, le côte de bœuf. Et tout d'un coup, Alain, devant tout le monde, me prend les mains. Imagine deux gars à table, un vieux, un plus jeune. Il me prend les mains comme ça. Et je m'a pleuré, il pleure. Et moi, je suis là, tout le monde regarde, j'ai fait... Et il me dit, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. 2 ans après, j'ai fait mon choix. J'ai choisi la mère de mes enfants. J'arrête tout, je vais me marier. Et pendant plusieurs mois, il a continué à aider l'autre femme financièrement jusqu'à ce qu'elle soit totalement délivrée, qu'elle ait un boulot. Il a tout fait selon son timing à lui, ce n'était pas l'idéal. Moi, j'aurais fait, je dis, là, demain, te marie-toi, mais il a attendu 2 ans. Mon point est le suivant. S'il n'y avait personne pour le barnabasser, il serait peut-être mort ou parti quelque part d'autre. Il a fait le mauvais choix. Il a fallu attendre patiemment que le Saint-Esprit fasse son travail et pas ton travail. Barnabas, c'est quelqu'un qui voit Saul, qui dit, toi, Saul, tu seras Paul. Je vais laisser le temps au Saint-Esprit de travailler. Toi, tu prêches, toi, tu influences, toi, tu aimes, toi, tu encourages, toi, tu édifies, toi, tu aimes, toi, tu te repens, tu fais des choses différentes, tu essaies de changer, mais c'est Dieu qui fait la différence. Vous savez, moi, j'ai vu plusieurs fois dans l'église ça, un gars qui fume, une femme qui fume, ça arrive souvent. Elle a tellement honte. Elle fume et puis après, elle prend une cigarette chez elle, elle écrase, elle prend plein de menthol, sirop de menthe, parfum. Puis on sort à l'église, elle veut chanter, elle fait ça. Elle lève ses bras, tout ça, puis l'odeur de cigarette relève. Tout le monde fait « c'est une chrétienne, ça ? Un démon ?» Et on juge comme ça, et tout d'un coup, la personne se fait... Elle a honte, elle sent qu'il n'y a pas des bons regards autour d'elle, et elle repart dans le monde, et bam, Satan la reprend. Bam, l'enfer est pour elle. Parce que simplement, l'Église n'a pas réussi à barnabasser. On l'a tabassée. Hé, Église, nous sommes les enfants de Dieu, nous marchons selon le cœur de Dieu. Nous sommes l'évidence, l'existence du roi des rois de cette terre. Jésus aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Il t'aime toi, il m'aime moi. Vous savez quoi? Quand je pense à Paul, qui était seul à l'époque, écoutez bien ça. Personne, lorsqu'ils ont vu l'apôtre Paul, en tout cas, Saul à l'époque, personne ne rêvait que Saul allait devenir l'apôtre Paul, le plus grand apôtre de tous les temps. Personne, sauf Dieu. Dieu avait déjà rêvé la vie de Paul. Il avait rêvé la vie de Steve. Il avait rêvé la vie de Michael. Il avait rêvé la vie de Nicolas. Il avait rêvé la vie d'Alain. Il a rêvé la vie de tous ceux qui sont là ce soir. Il a rêvé ta vie dans les moindres détails. Il a dit, le jour viendra où tu donneras ton cœur à Jésus. Et le jour viendra où je vais te barnabasser avec mon peuple. Et tu deviendras tout ce que tu dois devenir. Ce gars-là débarque dans l'église. Les gars ont peur. Ils s'affolent. Est-ce que vous savez que Saul, dès l'instant où il s'est donné à Jésus-Christ, il était déjà l'apôtre Paul? Oui ou non? Mais c'était un bébé. Combien d'entre vous avez déjà eu des bébés? Lequel d'entre vous, à votre bébé de 6 mois, 2 mois, 4 mois, 1 an, vous avez dit, bon, Steve, tu as 4 mois, voici la feuille pour la journée, ton biberon, four micro-ondes, tu te changes, tu regardes télévision, je m'en vais, je travaille. Salut, Steve. Et ça débrouille toi, Steve. Non, tu es chrétien, tu te débrouilles, tu avances, tu pries, tu fonces. Hein. Allez, t'es chrétien, tu fonces, tu pries, hein. Bye. Le pauvre jeune chrétien est là, il ne sait pas quoi faire. J'ai peur, je pleure, je tombe. Eh oh, arrête, t'es un chrétien, t'es fort, t'es pas fort. Le gars a 2 semaines de vie chrétienne, purée, réveille-toi. Il faut le barnabasser, il faut le mettre le biberon, il faut changer sa couche. Il faut le laver, il faut le dire, c'est pas grave, il faut recommencer, il faut être patient, il faut cultiver l'amour. Quand c'est un chrétien mature qui a 40 ans, là oui, tu peux te dire, attends, tu rigoles ou quoi? Mais un jeune chrétien, c'est un bébé. Saul, à l'époque, lorsque les disciples le rejettent, il est un bébé spirituel. Et Barnabas vient et dit, je te prends dans mes bras. Je vais t'aider à devenir tout ce que tu veux que tu deviennes. Tout le monde dit, alors Barnabas. Écoutez ça mes amis, Barnabas le fit entrer, le conduisit avec lui, le prit avec lui. Barnabas est la personne qui fait entrer les champions qui naissent dans la culture de la grâce. Quand un nouveau arrive à l'église, les Barnabas font, ouh lui, Arnaud, ouh là c'est une bombe. Ouh Samuel, là je vois une bombe. Ouh, je vois une bombe. Ok, et là, et moi je suis comme ça, moi je scanne les bombes. Je sais que si la bombe explose trop tôt, elle fait mal. Parce qu'une bombe qui explose dans le camp ami, c'est molle. Mais une bombe qui explose dans le camp ennemi, c'est cool. Donc il me faut le temps de prendre la bombe, de l'amener dans le camp ennemi, et bam, l'ennemi est abîmé. Mais si je lâche la bombe trop tôt dans ma famille, dans ma maison, là, dans l'église, c'est cuit. De l'importance, Samuel, d'être fortifié, travailler proche des ministères pour que tu puisses devenir tout ce que tu deviennes. Arnaud, c'est pareil pour toi. Christophe, moi je vais vous barnabasser. De temps en temps, je vais vous tabasser aussi. Écoute ça, les gars. Barnabas arrive et il voit Paul en train de pleurer. Parce que Paul avait, il a entendu parler de Christ, il arrive à l'église, il voit Jean, waouh, c'est l'apôtre Jean. Pouh, c'est l'apôtre Jean, pouh, c'est Pierre. Il a marché sur l'eau. Le gars a marché sur l'eau, je vais le voir celui-là. Jacques, c'est le frère de Jésus. Salut Jacques. C'est Paul, enfin Saul, tu vois. Ah, ok, t'as vu, ok, d'accord, je regrette, je repars. Et Saul est chez lui tout seul et il pleure. Barnabas fait, attends, j'arrange le coup. Les gars, Saul vient juste d'arriver, c'est un homme de Dieu en puissance, a une vision ouverte, il a parlé à Jésus-Christ, c'est de la bombe, faut l'amener. Les gars, ok, ben emmène-le avec toi alors. Et tout d'un coup, Saul devient ami et commence à parler de Christ. Grâce à qui? À Barnabas. Un jour, Barnabas va en mission. Écoutez bien ça. Barnabas va en mission et il s'éloigne de Paul. Au verset 29, Paul parlait aussi et discutait. Le mot grec dit disputer. Il disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Au verset 30, les frères, en eurent connaissance, le conduisirent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Barnabas s'en va. Paul, qui est un jeune chrétien, commence à faire ce que tous les jeunes chrétiens font, créer des conflits. Les jeunes chrétiens, lorsqu'ils sont chrétiens, ils veulent gagner le monde tout de suite. Ils vont voir leur maman, leur papa, leurs voisins et disent « Donne-toi à Jésus ou tu vas en enfer. Ouais, moi je suis chrétien. Et vous, là, les catholiques, vous êtes nuls. Nous, on est forts. Nous, on est meilleurs que vous. » Je parle de ma propre vie. Hein. « Et vous, ouais, toi, tu n'as pas la foi. Moi, j'ai la foi. Et voilà pour toi. » Et les jeunes chrétiens, c'est des monstres en puissance, totalement manque de sagesse, totalement à l'ouest. Il y va à fond. Et Saul pour l'instant, le gars commence à se disputer avec les Grecs. Et ouais, tu vois la doctrine, Barnabas c'est pas là. Et les disciples disent non. Déjà, il était meurtrier il y a quelques semaines. On fait l'effort de le prendre dans l'église. Et il crée des disputes, il crée des divisions dans l'église. Laisse tomber, on le vire. Ce qu'on va faire, Saul, viens ici, vite. Saul, salut Saul, ça va? Tu vas bien? Oui. Saul, tu vois, on a un petit problème avec toi. On a un petit souci. Tu crées des problèmes. Tu te bats avec tout le monde. Écoute, Saul, tu es un bon gars, mais ce qu'on va faire, on t'aime. On va t'envoyer en vacances. En vacances sur un très long terme. Un aller simple. Tu viens d'où? Tu viens de Tarse. Saul de Tarse. On te renvoie à Tarse. Amuse-toi, Paul. Saul, toi, écoute, toi, tu prends son billet. Tu l'amènes à la gare. Tu t'assures qu'il va bien partir. Et quand il part, tu lui dis au revoir. Et il va à Tarse. Le problème, mes amis, c'est qu'à Tarse, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de chrétiens à l'époque. L'évangile n'a pas encore atteint Tarse. Tu vas envoyer un jeune chrétien dans le désert du Sahara en lui disant « Sers Dieu ». Et les disciples, par peur de perdre leur équilibre, leur notoriété, ils ne veulent pas que ce soit chaotique. Tu vois le problème là, c'est quand une église grandit, il y a beaucoup de nouveaux. Quand il y a beaucoup de nouveaux, il y a beaucoup de couches à changer. Il y a plein de bébés spirituels qui créent plein de problèmes. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas avoir deux femmes. Et il faut expliquer pendant un an ou deux peut-être, deux mois, deux semaines. Ils ne comprennent pas pourquoi il faut arrêter de fumer. Il faut expliquer, tu vois, la cigarette, ça, tu n'iras pas en enfer à cause de ça, tu n'iras pas en enfer à cause de ça, mais tu iras au ciel plus vite. Et il faut que tu prennes le temps. Et là, tout le monde dit lorsque Barnabas est absent, les champions meurent. Ils envoient Paul, seul en tout cas, à Tarse. Mes amis, écoutez bien ça. Acte 11, 20. Je suis touché par ça. Acte 11, 20. Et il y eut cependant parmi... C'est bon ? Il y eut cependant parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Écoutez bien ça. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, les disciples, Jean et Pierre. Et ils envoyèrent qui ? Barnabas est rentré de mission. Entre temps, il arrive à Jérusalem et il trouve personne. Il dit, il est où Paul ? Il est où Saul ? Plus de Saul, plus rien, mais c'est pas grave. Il dit, bon, mais je comprends, il est parti en vacances, je ne sais pas où il est. Et là, il y a un réveil qui a lieu à Antioche. Et les disciples disent, écoute, Barnabas, va voir ce qui se passe. Va voir ce qui se passe à Antioche, on t'envoie à Antioche. Prends le premier TGV et vas-y. Il arrive à Antioche et verset 23, quand il vient à Antioche, il voit la grâce de Dieu et il se réjouit et il exhorta tous à rester d'un cœur résolu au Seigneur. Il dit, les gars, c'est super ce que je vois. Vous savez, les Barnabas ne sont jamais jaloux du succès des autres. Regarde dans une église et dit waouh les gars, c'est super ce que Dieu a fait avec vous, purée, ça décolle, c'est canon, purée, en tioche, c'est de la bombe, c'est de la balle, c'est génial. Nous aussi, à Jérusalem, ça va bien, mais vous, les gars, en tioche, c'est canon. Et puis tout d'un coup, la Bible dit au verset 24 que Barnabas était un homme bon, plein d'esprit, saint, de foi, un homme excellent, un homme qui encourage les autres. Et à chaque fois qu'il y a un Barnabas, il y aura des foules, vous savez, l'église se multiplie, l'église va bien, il y a plein de monde, il encourage les gens. Et tout d'un coup, au verset 25, la Bible dit, Barnabas partit ensuite pour quoi? Pour où? Où ça? Il va à Tarse pour faire quoi? Pour chercher qui? Les gars, imaginez cela. Steve et moi, on vous envoie à San Francisco où il y a un réveil extraordinaire. Et on vous dit, on vous paye tout. Prenez soin du réveil. Et vous êtes là en train de voir l'église en train de grandir. Votre ministère est extraordinaire. Les gens vous disent que tu es un homme de Dieu, tu as la foi, tu as un esprit saint, tu es bon, tu es sage. Tu es en plein réveil et tout d'un coup, toi, tu t'arrêtes, tu fais, je vais au Tchad chercher Ben Laden. Seul. Tu arrêtes ta mission dans une église extraordinaire pour aller chercher un gars que tout le monde a rejeté, qui a fait des erreurs, qui est un ancien meurtrier, que personne ne connaît, personne ne reconnaît, tout le monde refuse, qui est à Tarse. Et je rappelle qu'entre Antioche et Tarse, c'est pas le TGV, c'est pas le métro. Il n'y a pas de Wi-Fi, pas d'Internet, pas d'SMS, il n'y a rien. Il faut prendre le bateau, il faut prendre le chameau, le cheval, ce que tu veux. Il faut marcher pendant des jours, il faut y aller avec ton petit paletot. Et Barnabas quitte Antioche. Et va voir Saul à Tarse. Et moi j'imagine Saul à Tarse qui est chez sa mère, dans sa chambre derrière. Là il est totalement démoralisé. Il met à fond Led Zeppelin. Non pas vrai. Il met Luc Dumont. Et il est là. Et il dit, Seigneur, je comprends pas. Tu m'as donné une vision. Tu m'as donné un rêve. J'ai vu, tu m'as parlé. Un homme est venu me voir, il m'a donné des directions, il ne me connaissait même pas. Et je suis allé à l'église, Hosanna, j'ai été, j'ai vu Steph prêcher, j'ai vu Jérémie prêcher, j'ai vu Philippe danser, j'ai vu Alex jouer de la batterie, j'ai vu Luc Dumonté, j'ai vu tout le monde chanter, Seigneur, j'ai vu Jim à la porte, j'ai vu Alain, j'ai vu les gars, j'ai vu Fred. Je comprends pas, Seigneur. Maintenant, je suis à Tarse, tout seul chez ma mère. Il n'y a pas d'église, il n'y a personne, il n'y a pas de chrétien, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Je me sens seul. C'est vraiment toi, tu m'aimes encore, Seigneur. Peut-être que je suis allé trop loin, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus où aller, j'ai plus d'église, plus rien. Même les disciples, les gars, vous faites rejeter par Steve et moi. C'est quand même molle, mais tu te fais rejeter par Jean et Pierre, c'est chaud. Jean et Pierre, les gars, le gars a marché sur l'eau. Jean a une révélation sur l'île de Patmos. Si Moïse te dit, Steve, t'es out, t'es plus en ministère, si Moïse te dit ça, réfléchis bien avant, c'est quand même Moïse, quoi. Là, c'est quand même. Oui ou non? Si ton voisin te dit, t'es nul, si Moïse te dit, t'es nul, tu pleures. Et là, je me rends compte, je vois ce gars-là en train de pleurer. C'est quoi le but? Et là, quelqu'un frappe à la porte. Et la mère de Saul ouvre la porte et fait, c'est qui? Il dit, bonsoir madame, c'est Barnabas, je suis venu d'Antioche. Dans quoi? D'Antioche. Dans quoi mon enfant? Je suis venu d'Antioche. Ah, en coche. Oui. Est-ce que je peux rentrer s'il vous plaît? Type qui? Est-ce que je peux rentrer s'il vous plaît? Qu'on veut, fais quoi? Parce qu'elle est créole, la mère de Saul, c'est connu. Elle dit, pourquoi faire? Attendez une seconde. Mon fils est dépressif, il est en dépression, il en a marre, il ne sait plus quoi faire, il est démoralisé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous l'église, là, vous l'avez blessé. Vous êtes une secte. Vous êtes des hypocrites. C'est pour ça que moi, la mère de Saul, je ne vais pas à l'église. Vous êtes des hypocrites, vous blessez les gens. Ouh. Là, Barnabas dit, je comprends, mais pas tout le monde est comme ça. Tu ne peux pas juger un groupe sur une personne. Les gens font des erreurs, mais pas tout le monde est pareil. Elle dit, attends une seconde, elle va appeler Saul. Elle dit, Saul, oui, mon, c'est quoi? Saul, c'est Barnabas. Qui? C'est Barnabas. Là, il essuie ses larmes, il fait, Barnabas? Mais c'est le gars qui m'a pris avec lui. Attends, je m'habille, je me brosse les dents, je me prépare. Attends. Barnabas. Salut Barnabas, ça va? Il est un peu choqué, il ne sait pas trop quoi faire, il a larme aux yeux. Barnabas fait, j'étais cherché partout, Saul. J'ai fouillé toutes les rues de Tarse, je ne connaissais pas Tarse, j'ai pas de GPS, j'ai pas de guide, je suis venu te chercher, on m'a dit que t'habitais là. Paul, Saul, c'est bon de te voir, viens dans mes bras, Saul, viens dans mes bras. Barnabas était plus grand que Saul, parce que Saul était petit. Il dit, viens, Saul, je te prends dans mes bras. Saul fait, tu es venu pour me voir? Non, Saul, pas pour te voir. Je comprends pas pourquoi. Pour te rechercher. Tu es venu me chercher d'Antioche? Moi? Mais pourquoi? Mais Jean m'a rejeté, Pierre m'a rejeté, tout le monde m'a rejeté. Mais moi, j'ai péché, c'est vrai, j'ai créé des conflits, je reconnais. J'étais à l'ouest, j'étais trop tumultueux, je reconnais, j'ai vraiment fait des erreurs. Barnabas, c'est pas grave, Saul, c'est pas grave, viens avec moi. Il y a une église à Antioche, une église qui s'appelle Hosanna. Les gars sont bons, ils déchirent, ils sont en feu pour Dieu. Viens m'aider, j'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes pour m'aider, pour faire la différence. Et verset 26, ils disent, après l'avoir trouvé, ils le conduisirent à Antioche. Et pendant une année entière, ils participèrent aux réunions d'église à Hosanna. Ils enseignèrent une foule nombreuse. Ce fut à Antioche, ce fut à Hosanna que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Il y a un truc qui se passe là, tout d'un coup. C'est la première fois que les disciples furent appelés chrétiens avec la puissance de Barnabas et de Saul qui est devenu Paul. Alors je sais, j'ai un peu imagé rapidement ce soir, je ne veux pas être trop long, le temps est trop court. Je vais m'arrêter maintenant, il est déjà 8h30. Mais je veux vraiment vous encourager à m'aider à devenir des Barnabas. Les hommes et des femmes qui arrêtent de juger les nouveaux ou les nouvelles ou les voisins ou la voisine. J'aime cette histoire, un jour, c'est une femme qui tous les matins elle se réveille. Elle regarde par sa fenêtre. Et elle dit, voilà, elle dit, oh, la voisine, tu vois, chérie, regarde ça. Tous les linges de la voisine sont sales. C'est dégoûtant, c'est taché. Fou, elle est vraiment sale, la voisine, elle est vraiment crade. Tous les matins, on dit ça, tous les matins, elle critique la voisine. Son linge est sale, le linge qui est tendu sur le fil. Un matin, elle se réveille comme ça, elle regarde par la fenêtre, elle fait, waouh, enfin, elle a lavé son linge proprement. Enfin. Chérie, viens voir ça. Chérie, regarde. La voisine a enfin lavé son linge. Son mari répond en disant, non, chérie, j'ai lavé la fenêtre. Lave ta fenêtre. Et tu verras les gens en face. Je finirai avec un verset dans 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi désormais, nous avons considéré... Non, c'est juste avant. Alors. Ouais, non, c'est quoi? 2 Corinthiens 5, 16. Ouais, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus cette manière. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ça veut dire que lorsque tu marches dans la grâce, tu cesses de voir les gens avec tes yeux charnels et tu choisis de les voir avec le cœur de Dieu. Il y a une différence entre le discernement spirituel et la critique. Quelle est la différence entre les deux? La critique, pour critiquer, c'est facile. Il faut 2 yeux, 1 bouche, 2 oreilles, 1 cerveau. Là, tu critiques. Mais pour discerner, il faut l'amour de Dieu. L'amour discerne. Mais quand tu discernes, tu ne critiques jamais, tu ne détruis pas, tu ne casses pas, tu ne brises pas. Quand tu discernes, tu construis. Écoutez bien cela. Hosanna entre dans une nouvelle saison. Dieu veut faire de vous et de moi des Barnabas et des Barnabella. Des hommes et des femmes qui vont commencer à voir les autres tels que Dieu les voit. Si quelqu'un a vraiment un défaut, un problème, même s'il pêche, tu sais quoi? Ce n'est pas en étant dur avec lui qu'il va changer, c'est en l'aimant. C'est la bonté de Dieu qui amène un homme à la repentance. Ça ne veut pas dire que tu dis rien. Écoute mon frère, tu pêches, mais je t'aime. Je suis prêt à t'aider à arrêter ton péché. Parce que si tu pêches, tu vas mourir ou tuer ou détruire ta famille. Tu vas galérer. Mais moi, je suis prêt à marcher avec toi jusqu'à ce que tu sois heureux. Ça, Barnabas. Il ne dit pas, ouais, c'est pas grave, ce que tu veux. Non, il dit, attends, là tu as un problème et je peux t'aider. Dieu veut t'aider. Dieu veut te changer. Je suis là pour toi. Appelle-moi quand tu veux. Écoutez bien ça, frère et sœur. Pourquoi est-ce qu'un Barnabas doit être généreux? C'est dimanche midi, tu sors de l'église, et là, il y a la Formule 1 ou le match de foot, il y a Nice, Marseille, et là, tu as Alain et Philippe qui débarquent, qui disent non, là, cet après-midi, je coupe mon téléphone, une bonne bière, Philippe peint Nice sur son front, Alain peint Marseille, le M sur son thorax, garçon cool, barbecue, ça s'asseye, et tout d'un coup, Alain, tout d'un coup, Philippe, tout d'un coup, l'église, le Saint-Esprit te dit, tu te rappelles ce matin, il y avait un nouveau, il s'appelle Stéphane. Tu te rappelles de lui ? Oh ouais, Seigneur, je l'ai vu. Ouais, non. Invite-le. Oh, Seigneur, pour la première fois, pour une fois que j'ai un temps off, pour une fois que je suis cool, pour une fois que je peux enfin regarder mon match tranquille. Seigneur, envoie un autre gars pour Stéphane, ou Stéphane va attendre. Saint-Esprit fait, hey, tu as un Barnabas ou pas ? Invite Stéphane à voir le match avec toi. Là, tu changes tes plans. T'appelles Stéphane, et Stéphane dit, j'arrive. Stéphane dit, je suis nouveau à l'église, j'arrive, je viens pour le match de foot, Nice-Marseille, les gars, je viens. Ding dong, tu ouvres la porte, Stéphane a débarqué avec 16 personnes. 16 copains. Ah, salut Stéphane, et c'est qui ça? Ah, tes voisins, et tes cousins, et tes frères. Ben, c'est bon, gars, rentrez. J'ai un F1 de 14 mètres, mais c'est bon, rentrez quand même, c'est bon. Mais tout d'un coup, tellement d'amour en toi. Alain et Philippe se disent, c'est pas grave, tu sais quoi? On a une bière. On appelle Cédric, repasse à la maison. Ramène 15 packs de bière. Parce qu'ils sont 24, les gars, viens vite. Il y a plein de non-chrétiens, ils boivent pas une bière, ils se font des perfusions de bière. Et tu comprends la situation, c'est molle, mais tu sais que là, attends, là ce qui compte, c'est que tu aimes les gars. Et tu changes l'atmosphère et tu fais une fiesta chez toi. Et Nice perd 5-0 et Marseille fait, ouais! Pas vrai, Philippe, non, c'est Nice qui gagne en fin de compte. Et tout le monde comprend l'idée ou pas? Mais tu peux pas être un Barnabas juste à l'église. Ouais, ça va? Tu vas bien? Eh, bienvenue, hein? Allez, à dimanche prochain. Barnabas le prit et le conduisit avec lui. On marchait ensemble. Inviter des gens. Écoutez bien ça, je vais finir avec ça ce soir, c'est trop bon. Inviter des gens que vous n'avez pas envie d'inviter. Parce que quand tu invites quelqu'un que tu aimes déjà la folie, tu ne vas pas le Barnabas, ça va être la religion, un club. Mais quand tu invites quelqu'un qui a besoin, à son divorce, vient de perdre son enfant, a un cancer, se sent seul, déprimé, boit du noir, et toi tu es là et tu as tes propres problèmes et tu te dis, Seigneur, hey, faut que je le fasse. Quand avec le pasteur Cédric et Luc et Fabrice, on sort à vélo, on invite un paquet de gars. On invite des non-chrétiens. On était combien? 20 ou 30, je ne sais plus combien. Un paquet de gars. Le jour, on a fait 200 km, dont 100 sous le cyclone. À Bar-Saint-Joseph. La pluie, c'était plus de la pluie, c'était de la grêle. Il y avait plein de gars. Et j'ai vu les gens se dire merci beaucoup m'avoir attendu, et on s'attend, et les gars sont encouragés par une atmosphère d'amis, de copains, de potes. Et j'ai pris ce message du pasteur Abbé Huber. Ils ont une petite église. Ils sont combien? 86 000, je crois. Ils sont 80, enfin, il y a deux ans, ils étaient 90 000 personnes dans une ville qui contient 110 000 personnes. Et ils ont dit, il nous a dit une phrase forte, il a dit, écoutez bien ça, hein, ne faites pas des gens qui viennent à l'église vos amis, faites des gens vos amis avant qu'ils viennent à l'église.